L'extension de la PMA aux couples de femmes, mesure phare de la loi de bioéthique, arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, contre ce projet de loi, une dizaine d'associations se mobilisent au sein d'un collectif. Il s'appelle Marchons Enfants. Il appelle à manifester le 6 octobre prochain. C'est à Paris. Et je reçois ce matin les représentantes de certaines de ces associations en Haute-Garonne. Bonjour Anne de la Doucette.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes présidente des associations familiales catholiques. AFC, ça représente à peu près 500 familles. Bonjour Béatrice Jeannot.
Bonjour Isabelle.
Vous représentez-vous la Manif pour tous, à peu près 4000 adhérents, familles, bénévoles, je ne sais pas comment on dit, en Haute-Garonne. Et enfin, Maïlys Jahan, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes-vous déléguée départementale Alliance Vita, plusieurs milliers également d'amis proches Alliance Vita en Haute-Garonne. Alors on a beaucoup entendu cette injonction à mener un débat apaisé, au risque parfois, certains l'ont dit, de confisquer le débat ou de porter l'anathème sur ceux qui ne penseraient pas pareil. Je vous demanderai tout de même ce matin de rester aussi mesuré que possible. Nous sommes ensemble pour comprendre et vous faire entendre vos arguments, vos motivations. Alors ça sera le 6 octobre prochain, c'est à Paris. Ça commence déjà à s'agiter sur les réseaux sociaux. De certains côtés, on craint notamment les débordements verbaux des manifs contre le mariage pour tous en 2012-2013. C'est le match retour qui se joue le 6 octobre.
Je ne sais pas si c'est le match heureux, c'est une nouvelle. C'est surtout une nouvelle étape qui se joue aujourd'hui et qui va encore plus loin que les précédentes manifestations, pardon, et qui finalement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qu'on annonçait déjà en 2012. Donc, on n'est que dans la prolongation. On n'a pas joué les prophètes, mais ça se passe quand même. Donc.
Nouvelle étape. Toutes les étapes ont été traversées. Tout ce qui a été fait en votre possible a été fait. C'est ce que vous voulez dire, Anne de la Doucette?
Avant d'aller manifester maintenant?
Oui.
Je pense qu'on nous laisse plus le choix aujourd'hui. En fait, il y a eu ce Conseil national, cette consultation citoyenne sur la bioéthique l'année dernière. Les états généraux. On a laissé le peuple s'exprimer. Le peuple s'est exprimé. Il a dit qu'il était contre à une large majorité. Le Conseil national d'éthique n'en a pas tenu compte. On a auditionné un certain nombre d'associations, les représentants des religions, on les a écoutés, mais on n'a absolument pas tenu compte de ce qu'ils ont dit. Seuls les francs-maçons sont pour, dans ce que j'ai compris. Toutes les autres ont émis d'énormes réserves en disant que c'était une véritable révolution anthropologique. On n'allait plus permettre à certains enfants d'avoir de père. On allait leur tuer leur père, d'une certaine façon.
Écoutez, mais pas entendu.
Absolument. Et puis, il y a récemment l'Académie de médecine qui s'est quand même prononcée à 60 fois contre 10 en disant qu'elle ne se mettait pas sur un plan sociétal mais médical et disant bien qu'il y avait des risques énormes pour la formation, la structure des enfants à venir de ne pas avoir de père. C'était une révolution anthropologique.
Alors, je vais le citer puisque vous donnez tout de suite l'Académie de médecine. Elle a fait paraître effectivement sa position sur le texte de loi. C'est effectivement un allié pour vous de dernière minute, si je puis m'exprimer ainsi. C'était samedi. Son avis repose sur cette phrase notamment. La conception délibérée d'un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n'est pas sans risque pour le développement psychologique de l'enfant. Elle demande du coup que soient réalisées des études en milieu pédopsychiatrique à partir d'enfants privés de père pour permettre d'évaluer le devenir de ces enfants au nom du principe de précaution si souvent évoqué pour des sujets de moindre importance. Effectivement, c'est un allié qui survient au dernier moment. Alors tout de même...
Alors il y a deux choses que je veux dire. Une autre chose, par exemple, c'est que Agnès Thil, qui était quand même un député de La République En Marche, qui s'est fait, a dit ouvertement et extrêmement courageusement qu'elle était contre, parce qu'elle avait fait seule sa fille, qu'elle était directrice d'école. Elle s'est fait injurier, mais d'une façon extrêmement violente dans son parti.
Et elle a été exclue.
Alors, pour un débat serein, peut-être qu'il faut déjà donner l'exemple dans son propre parti. Et puis enfin, on voit M. Bellamy, qui était l'autre jour sur On n'est pas couché, qui se retrouve devant un espèce de tribunal de 4 personnes, dont Mme Treweiler, qui n'a peut-être pas ses compétences.
Il a fini par être écouté tout de même.
Oui, mais bon, c'est une façon. Le débat serein, on ne demande qu'à l'avoir, mais il faut être écouté, il faut qu'en face, on nous écoute.
Vous ne craignez pas de rouvrir les plaies de 2013 tout de même?
Pas du tout.
La manif pour tous, Béatrice Jeannot.
Non.
Vous étiez pourtant en tête de pont, si je puis dire, en 2013.
Oui, exactement. Et on est toujours avec non pas 10, mais plus 20 associations où on est regroupé sous l'insigne Marchons Enfants. Marchons Ensemble. Et le but, c'est vraiment de se faire entendre. À l'heure actuelle, on n'arrive pas à se faire entendre. Les gens sont contre la PMA. Et la PMA ne veut pas dire que. que cette partie-là. Ça va engendrer bien plus tard la GPA, et la GPA, c'est encore pire que la PMA.
Alors, on n'y est pas encore à la GPA, mais vous pensez qu'on va y aller tout doucement?
Ah oui, c'est tout doucement. On met un pied dedans. Là, on met déjà un pied pour la PMA. Après, ça va être quoi? Ça va être l'achat de gamètes, puis ensuite l'allocation d'un ventre. Mais ça...
Alors, on va rester tout de même dans le concret de ce que prévoit la loi et on va essayer d'être le plus factuel possible. C'est dimanche 6 octobre à Paris. Vous avez une idée déjà de la mobilisation? Le nombre de cars qui part d'ici? C'est vous la manif qui organisez ça?
Alors, nous avons déjà un car. On espère en remplir encore plusieurs. N'hésitez pas à vous inscrire. On redonnera.
Vous manifestez pourquoi ou contre quoi ce 6 octobre?
On manifeste d'abord pour dire la vérité finalement sur ce projet de loi bioéthique. Peut-être aussi pour défendre la justice, pour combattre l'injustice. Déjà l'injustice qui est faite aux enfants d'être délibérément privés de père avec la PMA dite pour toutes, qui est en fait une PMA sans père. Mais il y a aussi tout le volet recherche embryonnaire et le volet diagnostic préimplantatoire et eugénisme qui est également
alors diagnostic inquiétant. Préimplantatoire, peut-être qu'il faut repréciser de quoi nous parlons, Maïlys.
Le diagnostic préimplantatoire, c'est un diagnostic qui va être fait sur un embryon dans le cadre d'une fécondation in vitro, d'une FIV. La plupart du temps, c'est pour des couples qui sont porteurs d'une maladie héréditaire grave et on leur propose ce diagnostic pour leur implanter des embryons qui n'ont pas cette maladie, pour éviter la transmission de cette maladie. Actuellement, le nombre de maladies qui est diagnostiqué est limité, il y a un certain cadre, et aujourd'hui, le cadre risque d'être fortement étendu, puisqu'il va être beaucoup plus simple de rajouter des maladies qui pourront être détectées.
Et il a même été question, lors des débats préliminaires à l'Assemblée la semaine dernière, d'ajouter la trisomie 21 dans ce diagnostic, ce qui a valu à un député En Marche cette phrase, et beaucoup d'émotions dans le débat qui a dit jusqu'où allons-nous aller. C'était un député En Marche à l'époque. Contre quoi ou pourquoi vous manifestez-vous, Anne de la Doucette, le 6 octobre?
Parce que justement, cette mutation anthropologique de la société, c'est vraiment une transformation de la société. François-Xavier Bellamy l'a bien dit, on est passé d'une médecine qui soigne à une médecine qui augmente l'homme. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et puis, on parle pour tous les sans-voix, parce que ces enfants ne peuvent pas s'exprimer. Il y a eu très très peu de retours d'enfants qui ont vécu ça. Moi, j'ai vu une vidéo d'une Anglaise, une Américaine, qui disait « J'avais deux mères, mais au fond de moi, il me manquait quelque chose d'essentiel. Je sentais bien qu'au fond de moi... » Alors, on me dit « Tu as eu de l'amour. » C'est pas une question d'amour. C'est d'où je viens, quelle est l'autre partie de moi-même qu'on m'a enlevée délibérément. C'est différent de perdre un père, d'avoir un père qui disparaît, d'avoir... tas de choses qui peuvent être des accidents de vie et que la loi délibérément prive un enfant de son père. C'est complètement différent.
Jean-François Mattei, le vice-président de l'Académie de médecine, disait hier à ce propos, on ne sait pas évaluer à quoi sert un père, mais on soigne les défauts d'un père.
Absolument.
Le
oui.
manque de père. Mais on ne sait pas évaluer à quoi sert un père. Alors, il y a eu des petites phrases lors de la commission chargée d'examiner le projet de loi de bioéthique la semaine dernière. L'accouchement ne suffit pas à établir la filiation. Ça, c'était Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Il y a eu aussi Jean-Louis Touraine, le rapporteur de La République En Marche de la commission concernant le projet de loi de bioéthique. Lui, il a dit « Il n'existe pas de droit pour l'enfant » à avoir un père. J'aimerais qu'on laisse résonner cette phrase. Il n'existe pas de droit pour l'enfant à avoir un père. Comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce que vous expliquez que des phrases quand même assez fortes, lourdes de sens, puissent être prononcées sans que finalement ça émeuve grand monde? Est-ce que vous pensez que le débat que nous avons ce matin, finalement rejoint la préoccupation des Français?
Je crois que c'est tellement surréaliste ce qu'on nous dit. On nous dit que les femmes ont des désirs auxquels il faut répondre et qu'on donne un droit à l'enfant et les enfants n'ont pas le droit d'avoir un père. Moi, je trouve qu'on marche sur la tête. Donc les gens, quand vous les croisez, ils vous disent « on marche sur la tête ». Ils ont l'impression qu'on leur donne des coups sur la tête. C'est tellement surréaliste, c'est tellement incompréhensible, c'est tellement manque de bon sens et de cohérence que les gens, ils sont paumés, quoi. Moi, je crois. Non, vous ne croyez pas qu'on pense.
Puis, à mon avis, Jeannot, Alliance Vita.
Je pense aussi qu'on est aussi dans une sorte de matraquage, puisqu'on assène des phrases affirmatives aux personnes. Donc, les personnes, si elles l'entendent comme ça, sans aller plus loin, vont se dire oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai. Mais dès qu'on commence à réfléchir avec elles, dès qu'on commence à leur dire, mais là, ce point-là. Tu penses pas que c'est un peu bizarre, que c'est injuste? Là, il commence à dire « oui, effectivement, tu as raison, je pense que c'est pas une bonne chose d'aller par là ».
Le débat est très technique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous pensez qu'il est, il reste sourd aux Français?
Je crois qu'ils ont peur. Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. On a peur de dire ce qu'on pense aujourd'hui, parce que regardez comme la façon dont la députée Agnès Thil s'est fait massacrer. Je pense que les gens, ils ont peur. Ils se disent, je vais pas être dans le politiquement correct.
Ça rejoint ce que vous avez cité tout à l'heure, Anne de la Doucette, François Bellamy. Il a dit qu'il a manifesté. Et il a appelé à ne pas se laisser intimider par le sens du vent, par la peur d'être ringard. La peur d'être ringard, c'est quelque chose qui vous taraude également, les unes et les autres.
Non.
Ah non, j'aime mieux être ringard que bobo, je dirais. Entre
moi
les
aussi,
deux, je préfère.
Je pense, je préfère réfléchir par moi-même que le gouvernement, à l'heure actuelle, nous impose son idéologie et que ça nous amène à une société qui va être totalement déraisonnée dans les années à venir.
On entend souvent, vous manifestez contre quoi, pourquoi, on ne vous enlève rien à vous, on donne des droits aux autres. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Mais on donne des droits aux autres, mais on en enlève à des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer. On travaille pour le bien commun, on ne travaille pas juste pour nous. C'est ça qui est fabuleux. Ces gens ne pensent qu'à... C'est la montée de l'individualisme au plus haut point. Mais ces enfants qui vont naître, si personne prend leur défense, ils ne peuvent pas se défendre. C'est le bien commun. On défend le bien commun, on ne défend pas notre petit nombril. Ça serait vrai, on pourrait rester chez nous en disant ça ne nous concerne pas. Mais si, ça va nous concerner parce que ces enfants vont se retrouver dans la cour de récréation de nos enfants et vont être en souffrance parce qu'eux, ils n'auront pas de père.
C'est aussi un principe, je pense, d'écologie humaine où déjà avec toutes les inquiétudes à propos de l'état de la planète, on se dit qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures, quelle planète on va laisser aux générations futures, mais c'est aussi quels enfants on va leur permettre d'être dans les générations futures.
C'est vrai qu'il est très surprenant, à un moment où on revient à la Terre, où on revient à l'essentiel, au moins au proche de la nature. Effectivement, cette conception d'enfant avec beaucoup de techniques, c'est quelque chose qui vous choque?
Oui, énormément. Parce qu'on ne peut pas se permettre, à l'heure actuelle où on nous vend tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, et là, c'est que de la science. C'est de la science, de la transformation... On ne peut pas se permettre de faire ça à l'heure actuelle.
Par exemple, justement, je repasse à tout ce qui est bio, transformation. On va dire non aux OGM dans nos tomates, le maïs, etc. On veut revenir à une alimentation saine. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, le projet de loi bioéthique prévoit, s'il est ensuite définitif, de la possibilité de faire des embryons OGM. C'est-à-dire qu'avec une technique qui s'appelle le CRISPR-Cas9, de modifier une séquence génétique sur un embryon pour lui supprimer un gène porteur d'une maladie et de le remplacer par un gène sain. Donc quand c'est sur des cellules chez une personne adulte par exemple, c'est quelque chose qui est une technique magnifique. En revanche, quand il s'agit de remplacer ces séquences sur un embryon, le but c'est de créer finalement un embryon génétiquement modifié et ensuite de permettre à des enfants de naître justement, mais qui seront des bébés OGM, et on ne connaît pas forcément les conséquences de cette modification de séquence. Donc on passe d'essais sur l'homme à des essais d'homme. Les enfants vont être leurs propres cobayes.
Eh bien, je vous propose de rester là-dessus. On passe d'essais sur l'homme à des essais d'homme. La manif pour tous, et puis Alliance Vita, et puis les AFC, toutes ces associations, et une dizaine, quinzaine d'autres, m'avez-vous dit. Appel à manifester, c'est le 6 octobre prochain à Paris, contre le projet de loi. On a bien compris que c'était même au-delà de la PMA pour toutes. Il y a une autre manière de manifester, de se manifester. Chacun y trouvera son compte. C'est aussi cet appel des pères, une initiative qui a été lancé tous les dimanches soirs de 21h à 22h, place du Capitole à Toulouse. Les papas peuvent se réunir.
Et puis aussi, on peut écrire à ses députés, à ses élus, parce qu'il faut qu'ils soient responsables de ce qui, si jamais ils votent ou pas.
Merci à toutes.